réplique Auschwitz pour mémoire avec Marceline Loridan-Ivens. Il y a des passés qui ne passent pas. Il y a des défunts dont on ne peut jamais faire le deuil. Ainsi en va-t-il de son père, Salomon Rosenberg, pour Marceline Loridan-Ivens. Ils ont été déportés à Auschwitz dans le même convoi le 13 avril 1944. Il y est mort et la fille fait de lui le destinataire de son dernier livre « Et tu n'es pas revenu ». En lisant ce bref et bouleversant témoignage, j'ai pensé à ces mots d'un détenu dont, nous dit Blanchot dans l'écriture du désastre, on retrouva les notes enfouies près d'un crématoire. La vérité fut toujours plus atroce, plus tragique que ce que l'on en dira. Et Blanchot commente « Le vœu de tous là-bas, le dernier vœu, sachez ce qui s'est passé, n'oubliez pas, et en même temps, jamais vous ne saurez. » De plus en plus de gens murmurent, et même parfois proclament, qu'on en fait trop avec la Shoah. Ils disent leur lassitude, voire leur exaspération. Mais s'il est vrai que les sermons peuvent fatiguer, à chaque nouveau récit, du moins pour ceux qui ont encore un cœur de chair, la stupeur est de mise, et la sempiternelle, la lancinante question revient, comment cela a-t-il été possible? Cela, c'est en l'occurrence l'arrestation de Marceline et de son père dans le château que celui-ci avait acheté à Bollème, leur passage à la prison Sainte-Anne d'Avignon, leur transfert à Drancy, puis le voyage vers Auschwitz. On vous avait dit que vous alliez à Pitchipoy, ce mot yiddish qui désigne une destination inconnue et sonne doux aux oreilles des enfants. Pouvez-vous nous dire, Marceline Loridan-Ivens, ce que fut en réalité l'arrivée au camp?
D'abord, le mot Pitchipoy, je ne l'ai entendu pour la première fois qu'à Drancy.
À Drancy,
c'était, on disait, on va à Pitchipoy. Je ne savais pas que ça venait véritablement d'un mot qui avait été dit pour les enfants. Mais nous, on disait Pitchipoy par méconnaissance totale du lieu où nous allions. Mais peut-être que parmi tous les gens qui étaient dans Drancy, et ceux particulièrement qui étaient dans l'organisation de la déportation, savaient très bien où nous allions, bien sûr. D'abord, l'existence de Drancy, telle que c'est aujourd'hui, est insupportable encore pour moi. Je n'y vais jamais, je n'irai jamais à Drancy, occupé par les plus pauvres des pauvres de cette banlieue française. Et d'autre part, c'est vrai, dans un silence mortel, nous étions 1500 personnes à peu près, en femmes, enfants, vieillards, et même les enfants d'Isieux étaient dans les mêmes wagons. Non pas dans mon wagon, mais dans les wagons.
Dans le convoi.
Et au bout d'une soixantaine d'heures de voyage, je ne sais plus exactement, nous sommes arrivés dans un lieu extrêmement silencieux. On ne voyait rien. C'était la nuit. À l'aube, en regardant par la petite lucarne du wagon, on pouvait apercevoir parfois des groupes de gens qui se déplaçaient. À un moment donné, j'étais grimpée sur le dos d'un homme et je regardais de loin ce qui se passait. Et j'ai vu des groupes de femmes qui étaient toutes habillées pareilles. Et avec mon innocence de petite fille de 15 ans, j'ai dit « Tiens, on va avoir un costume ici ». Et tout d'un coup, brutalement, les cris ont commencé de l'extérieur, des ouvertures de portes, des aboiements de chiens, des cris allemands très violents. Les portes sont ouvertes. On était effectivement dans un espèce de terrain vague, incompréhensible, mais où les rails arrivaient. C'était pas loin d'une gare. Et là, on a entendu les hommes à droite, les femmes à gauche, donner les enfants aux vieillards.
Vous l'entendiez dans quelle langue, ça ?
En allemand et en français.
En français, quand même.
Parce que parmi les Allemands qui étaient là, il y avait des groupes de déportés qui étaient chargés, des hommes habillés en costumes rayés, chargés de déblayer immédiatement toutes les valises. Il fallait tout laisser sur place, s'en aller, rester en rang par cinq, les femmes.
Donc ceux qui vous parlaient en français, c'était des...
Des déportés.
C'était des déportés, voilà.
Et j'ai entendu donner les enfants aux vieillards. Et dites que vous avez 18 ans, mais par hasard. Mais qui va donner son propre enfant à quelqu'un d'autre ? Non, une femme, elle monte dans les... Les gens qui sont fatigués, les enfants, les vieillards, les femmes qui sont fatiguées avec leurs enfants, vous prenez les camions. Et moi, j'avais mal aux pieds. Et personnellement, je me dirige en descendant dans cette précipitation folle où j'étais immédiatement séparée de mon père parce que nous étions dans le même wagon, je me dirigeais vers un camion. Et c'est une amie à moi qui était là, que j'avais connue à Nancy.
Françoise.
S'appelait Françoise, oui, c'est vrai. Qui m'a dit, non, reste avec moi, on va se dégourdir les jambes. Et j'ai pesté contre elle pendant les 2 kilomètres que nous eûmes à franchir. Et là, on nous a mis en rang par 5. Les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. On voyait plus très bien ce qui se passait. Les camions étaient chargés de gens qui avaient abandonné toutes leurs affaires, toutes leurs valises, etc. Et qui partaient. Et on nous faisait ouvrir la bouche. On nous regardait de près. On nous examinait. J'ai été examinée 3 fois de suite. On m'a ouvert la bouche. Alors moi, j'ai cru que c'était parce que j'avais dit que j'avais 18 ans et que j'avais pas de dents de sagesse. C'est ridicule, c'est stupide. On est tellement bête et innocent. Et tout le long de ce trajet à pied, j'ai pesté avec François, j'ai pesté contre cette obligation de marcher à pied qui m'agaçait beaucoup parce que j'avais mal. Et nous sommes, d'après les chiffres, c'est ce que je n'ai jamais su là-bas, nous sommes rentrées 300 femmes sur 1500 personnes. Les hommes, je ne sais pas combien, et tous les autres gens sont partis directement à la chambre à gaz. Mais nous, on ne savait pas qu'il y avait des chambres à gaz, on ne savait pas qu'il y avait des crématoires, on ne savait rien. Mais il y avait une odeur. Il y avait une odeur perceptible. Et quand on a demandé, mais où sont les autres gens, une fois qu'on a été emmenés au sauna, où sont les autres gens, on nous a montré à travers une lucarne, regardez. Ils sont commandos du ciel.
C'est dès le premier jour, on vous a dit ça ?
Ah oui, immédiatement, bien sûr.
C'était d'autres déportés plus anciens qui vous parlaient comme ça ?
Oui, voilà, c'était des anciens déportés qui étaient très durs, très violents avec nous, manifestant une sorte de jalousie vis-à-vis de ces mademoiselles de Paris, vous voyez.
Pourquoi ? Parce que c'était des déportés qui venaient
des Polonaises. Oui, voilà, c'était pas des Françaises.
Alors justement, je voudrais vous soumettre... ce témoignage et cette réflexion de Primo Levi dans Les naufragés et les rescapés. Il y a un chapitre dont on a beaucoup parlé, la zone grise, mais justement, il parle de l'attente qui était celle des nouveaux arrivés au lager. Tous, à l'exception de ceux qui avaient déjà traversé une expérience analogue, s'attendaient à trouver un monde effrayant mais déchiffrable, conforme à ce modèle simple que nous portons ataviquement en nous, nous à l'intérieur et l'ennemi au dehors, séparés par une frontière nette géographique. Et, Primo Levi ajoute, l'arrivée dans le camp était au contraire un choc à cause de la surprise qui lui était associée. Le monde dans lequel on se sentait précipité était effrayant, mais il était aussi indéchiffrable. Il n'était conforme à aucun modèle. L'ennemi était tout autour, mais aussi dedans. Le « nous » perdait ses frontières. Les adversaires n'étaient pas deux. On ne distinguait pas une ligne de séparation unique. Elles étaient nombreuses et confuses, innombrables peut-être, une entre chacun et chacun. On entrait en espérant au moins la solidarité des compagnons de malheur, mais les alliés espérés, sauf des cas spéciaux, étaient absents. Il y avait à leur place 1000 monades scellées, et entre celles-ci, une lutte désespérée, dissimulée et continuelle. Oui, est-ce que c'est ça que vous avez vécu ?
Absolument. Le choc a été effrayant, parce que le pire auquel on pouvait s'attendre, c'était d'arriver dans un lieu qui serait difficilement vivable, mais où on travaillerait sans doute, et j'avais dit même à mon père à Drancy, bon, on travaillera très dur, c'est sûr, mais on se verra le dimanche. C'était le maximum que je pouvais imaginer. C'est là où mon père m'a dit, non Marceline, là où nous allons, toi tu reviendras peut-être parce que tu es jeune, mais moi, je ne reviendrai pas. Donc, il savait beaucoup plus de choses que je ne m'en doutais moi-même. En plus de ça, il parlait polonais. Alors, il avait dû entendre il avait eu des échos. Il avait rencontré des hommes à Drancy qui lui avaient dit « il faut tout faire pour ne pas y aller », etc.
Mais est-ce que vous avez aussi eu ce sentiment qu'il
choc épouvantable.
Qu'il ne pouvait pas y avoir de solidarité véritable
non.
Parce que voilà, il y avait, vous parlez justement de ces déportés qui regardaient les Françaises avec
dédain,
avec hostilité,
absolument.
Etc. Et ça vous a
d'abord,
évidemment
du fait que nous arrivions après elle.
Oui.
Donc elle connaissait les arcanes du lieu. Nous ne savions rien. Elle ne faisait rien pour nous informer. Au contraire, nous sommes arrivés, nous avons été tout de suite mis en rang, tatoués, ce qui était incroyable, inimaginable d'être tatoué. J'ai toujours mon tatouage d'ailleurs. Je le garderai jusqu'à ma mort, bien sûr. Peut-être je l'inscrirai sur ma tombe, peut-être. Et surtout, elle ne nous disait « faites attention », rien. Le silence, la complicité totale avec l'ennemi.
Et ça que vous avez ressenti d'abord.
C'est totalement. Ensuite, on nous a fait prendre une douche. Et là, pareil, on nous a pris tous nos vêtements, tout ce que nous possédions. On nous a rasé la tête plus ou moins profondément, suivant les personnes, suivant qu'on avait ou non des poux. Sans doute. Moi, j'avais presque plus de cheveux non plus, mais il m'en restait un tout petit peu plus que les autres. Et puis,
vous avez été complètement rasé aussi, c'est ça ?
Oui, bien sûr, le pubis, les aisselles, bien sûr. Et puis, surtout, cette violence, cette dureté inimaginable, tant des déportés, plus anciennes que nous, que des SS, exactement la même violence.
Exactement la même violence.
Oui, absolument.
Et vous parlez aussi bien dans « Et tu n'es pas revenu » que dans un autre livre qui vient de paraître, « Traces de l'enfer
oui. »,
chez Larousse, où avec d'autres rescapés,
oui.
vous racontez l'horreur des camps. Vous parlez de cette chose très triviale, dont précisément... les grands sermons que nous entendons oublient peut-être de nous faire part. Vous dites qu'il y avait le manque d'eau, la soif épouvantable, et ajoutez-vous, le manque d'hygiène.
Ah oui.
Pour se laver, il fallait se battre, arriver au robinet avant qu'une autre nous prenne la place. Aux toilettes, il y avait toujours une capot qui nous obligeait à faire vite et à nous lever alors qu'on n'avait pas terminé. Je n'ai jamais pu m'habituer à ne pas m'essuyer, alors je déchirais chaque jour un bout de mon caleçon long.
Oui, c'est vrai. Parce que c'était pas une capot, c'était la gardienne des lieux.
Ah oui.
Il y avait des gardiennes partout, qui avaient le pouvoir et la trique en même
oui.
temps. Et elles étaient exactement dans leur comportement, elles étaient obligées d'ailleurs, mais en plus de ça, elles le faisaient joyeusement, j'en suis persuadée, par sadisme, de nous empêcher de rester assis dans les toilettes qui étaient des espèces de plaques en béton avec des trous. Il y avait 200 trous d'un côté comme de l'autre, quoi.
Mmh.
C'était pas plus que ça. Et surtout, même quand on a pris la douche à l'arrivée, l'eau coulait très brûlante et tout d'un coup glacée. On n'avait pas de savon, on n'avait pas de serviette, on n'avait rien pour s'essuyer. Et on était complètement désorientés, quoi. Tout était fait pour nous désorienter.
En vous lisant Marceline Loridan-Ivens, je me suis moi-même senti un peu coupable parce que mon père a été déporté. J'ai oublié son numéro matricule, je sais que c'était dans les 40 000, il a été déporté beaucoup plus tôt que vous.
Mais... En 42 alors.
Oui, 42, oui, c'est-à-dire qu'il a été, c'était le billet vert
oui.
pour les apatrides. Il a donc été d'abord à Beaune-la-Rolande, puis il a été déporté à Auschwitz. Et il parlait lui-même assez volontiers, quelquefois un événement, une anecdote lui revenait, d'autres fois il répondait aux questions, et je m'en veux de ne pas lui avoir posé des questions assez précise, oui, assez triviale même. Il y a des choses que je sais, bien sûr, par ce que j'ai lu et par lui, mais voilà, je suis né quatre ans après la guerre. J'ai toujours été très impressionné par le destin de mes parents. J'ai voulu le prendre sur moi, mais cette fierté que j'avais d'eux, en quelque sorte, ce destin absolument hors du commun, m'a presque tenu lieu de curiosité. J'aurais dû justement les questionner sans cesse. Mes parents n'ont jamais voulu retourner en Pologne, donc quand je suis allé à Auschwitz, j'y suis allé sans mon père qui a été comme vous déporté à Birkenau. J'aurais dû le traîner par la peau du cou à Birkenau qu'il me montre son bloc et son chalet. Et en vous lisant, je pense en quelque sorte à toutes les questions que je ne lui poserai plus jamais, mais d'une certaine manière, auquel vous répondez, Marceline Oridan-Evans. Et puis, en même temps, vous ne cachez rien de cette souffrance épouvantable, mais vous vous méfiez du kitsch. J'ai aussi lu votre autre livre, Ma vie Balagan, où vous racontez tout cela, et vous citez Imri Kertész.
Oui.
Vous voulez entendre l'horreur, ça vous plaît. Eh bien, je vais vous raconter autre chose. Et comme dit Kertész, là-bas aussi, parmi les cheminées, dans les intervalles de la souffrance, il y avait quelque chose qui ressemblait au bonheur. Et ça, c'est dans un chapitre, Simone, que vous consacrez notamment à Simone Veil. Vous l'avez rencontrée à Auschwitz, et une amitié est née très forte, une amitié qui dure jusqu'à aujourd'hui. Mais justement, vous parlez de ces instants étranges, si vous voulez, de bonheur que vous avez pu ressentir à Birkenau, en l'occurrence.
C'est vrai.
C'était quoi, ça vous...
C'est quelque chose d'incommunicable et d'extrêmement aléatoire aussi. Parce que c'était quelque chose, je me souviens même, moi j'ai appris l'heure au soleil. J'ai pu apprendre l'heure au soleil. Aujourd'hui encore, quand je regarde le soleil, je peux savoir à peu près quelle heure il est.
Et ça, vous l'avez appris à Auschwitz?
Je l'ai appris à Auschwitz. À Auschwitz, j'ai aussi appris à faire une blanquette de veau. Et la blanquette de veau, telle que je la fais, exactement suivant la recette que j'ai appris à Birkenau. Et il y a eu des moments d'intense amitié proche, mais d'intense amitié qui disparaissait immédiatement. C'est-à-dire, vous étiez très proche de quelqu'un, cette personne était prise parce qu'elle était malade ou parce qu'elle était prise dans une sélection ou on ne sait pas pourquoi, vous l'oubliez tout de suite.
Oui, et en même temps, vous dites aussi qu'il y avait des formes quand même de solidarité.
Oui,
en dépit
bien
de
sûr,
cette hostilité générale, il y avait des formes de solidarité, de soutien.
Oui, en même temps, dans les groupes de gens qui venaient du même transport.
Ah oui, c'est ça.
C'est ça. Et par exemple, vous parliez du numéro de votre père, je suis sûre que vous pourriez retrouver le numéro de votre père si vous alliez à Auschwitz. Et moi, je lis les transports par les numéros. Quand j'entends un numéro, je dis « Oh, toi, tu as dû arriver en janvier 43 » ou...
Oui, donc vous avez dit 42 pour
m'avez dit 40 000, j'ai dit tout de suite, ça c'est 42.
Ah oui.
C'est bon. Fou, ça.
Et pourquoi je pourrais retrouver son numéro en allant à Auschwitz?
Parce qu'il y a des listes là-bas. Ben alors, évidemment, ils en ont détruit une grande partie, mais peut-être vous pouvez avoir la chance que de votre père sur une des listes. Comme moi, j'ai retrouvé mes numéros de Drancy, j'ai retrouvé mes numéros d'autres camps aussi. Vous voyez, par Klarsfeld.
Ah oui, mais moi aussi, j'ai retrouvé par Klarsfeld un certain nombre de choses.
Mais bon, en même temps, c'était l'horreur.
C'était l'horreur. Et j'ai lu dans un autre livre, et je voudrais savoir si vous étiez au courant, un livre d'un historien qui lui-même a rescapé, qui vit en Israël, Otto Dov Kulka, Paysage de la métropole de la mort, un livre édité chez Albin Michel, et il parle de ce qui a été une sorte de ghetto dans le camp même d'extermination, un camp familial
de Auschwitz.
De Theresienstadt,
oui.
Camp créé en septembre 43 avec l'arrivée de 5000 juifs donc déportés de Theresienstadt, et là les familles n'étaient pas séparées. Non. C'était un camp des familles. On s'est demandé pourquoi il avait été installé. Plusieurs hypothèses ont été envisagées. On s'est dit que peut-être, il est probable d'ailleurs que les Allemands prévoyaient de le faire visiter par la Croix-Rouge, mais comme une visite finalement a eu lieu à Theresienstadt, que la Croix-Rouge s'est complètement laissée berner, ça suffisait aux nazis, donc ils ont fait écrire des cartes postales qu'ils ont antidatées, qu'ils ont envoyées à Theresienstadt, et ensuite ils ont liquidé le camp. Oui. Simplement, nous dit Dovkulka, pendant la période où ce camp a duré, eh bien, une véritable vie collective s'est organisée et il y a eu une perpétuation de la société juive en tant qu'organisme social. Il y a eu des spectacles, des activités éducatives. Dovkulka lui-même a découvert Dostoïevski. On lui a donné un exemplaire de Crime et Châtiment. Et cela jusqu'au bout. Donc, est-ce que vous avez été au courant de l'existence de ce ghetto à l'intérieur du camp ?
On a été au courant de ce camp spécifique tchèque. Oui. Qui venaient de Theresienstadt et qui avaient été installés avec tout leur bagage, les familles pas séparées pendant 6 mois, uniquement dans le but d'écrire à Theresienstadt aux gens qui attendaient leur tour au ghetto de Theresienstadt, leur tour d'être envoyés à Auschwitz, pour les rassurer pour que les calmer, tout allait bien, qu'ils étaient tous ensemble. Oui. Et 6 mois après, ils ont tous été pratiquement gazés.
Mais vous saviez qu'il
Mais
y avait...
Mais c'était pareil pour les tziganes. Les tziganes étaient avec leur famille, leurs enfants, ce qui n'a pas empêché le 4 août, ça je me souviens très bien, de la liquidation du ghetto du camp. Mais nous ne les voyons pas.
Vous ne les voyez pas. Non. Donc vous n'avez pas su qu'ils poursuivaient des activités éducatives et qui ont continué de donner concerts et pièces de théâtre.
Ah non, pas du
ça,
tout.
Vous n'avez jamais su.
C'était un des camps du complexe de Birkenau, mais séparé... loin du camp des femmes dans lequel j'étais, quoi.
Alors là, je voudrais revenir un tout petit peu en arrière pour que vous m'expliquiez une formule que vous avez eue. Donc, je l'ai dit, vous avez été arrêté en 44, le 29 février 44.
Oui, 29 février.
Cette date improbable, cette date qui n'existe pas.
Oui, absolument.
Avec votre père, donc... Les Allemands sont arrivés et les miliciens dans ce château qu'il avait acheté, enfin...
En 40.
En 40, à Bollem, pensant que là-bas, il serait protégé. Et vous vous êtes retrouvé dans cette prison d'Avignon.
Oui.
Et vous avez écrit sur un des murs cette phrase inouïe. Donc, vous allez peut-être m'expliquer que c'est un immense bonheur de savoir à quel point on peut être malheureux.
Oui, c'est incroyable.
Qu'est-ce que c'est ?
Je n'arrive pas aujourd'hui même à comprendre pourquoi j'ai écrit cette phrase. Qu'est-ce que ça voulait dire ? C'est-à-dire tout d'un coup de la mise en abîme de soi-même totale,
ouais,
quoi.
Ouais, ouais.
Et voilà, je découvrais un autre monde. Parce que dans cette prison, il y avait une communiste et je m'engueulais tout le temps avec elle parce que je n'étais pas du tout communiste. Et j'étais plutôt gaulliste et je lui disais tout le temps... moi, je ne crois pas au peuple.
Ah, les choses ont changé après la guerre.
Oui, les choses ont beaucoup évolué par la suite.
Oui.
Je ne crois pas au peuple parce que c'est lui qui fait l'antisémitisme, ce qui est en partie vrai aussi.
Et mon père me disait toujours ce proverbe yiddish, « Oilem goilem, olam, le peuple est un golem. »
Ah bah
le
oui,
le peuple
absolument.
Est un golem,
oui,
c'est-à-dire...
c'est un golem, on le manipule comme on veut.
On peut manipuler.
Ce qui est souvent vrai d'ailleurs, la preuve Hitler.
Voilà. Mais,
et d'autres aujourd'hui.
Et d'autres aujourd'hui. Mais nous y reviendrons.
Oui.
Mais donc, cette phrase énigmatique et qui le restera jusqu'au bout,
oui.
C'est un immense bonheur de savoir à quel point.
C'est-à-dire, oui, ça devait être pour moi, là, tout d'un coup, la confrontation au malheur me faisait prendre conscience de quelque chose de moi-même dont je n'avais pas idée avant. Ou... Voilà.
Voilà, c'est ça. Et en même temps, le malheur. En plus,
du malheur,
dépasser ce que vous avez
éprouvé avant
à Sainte-Anne.
Bien sûr.
Et donc vous êtes déporté dans le même convoi que votre père. Vous êtes immédiatement séparé de lui
à l'arrivée de Birkenau.
Dès l'arrivée à Birkenau, et en même temps, vous le revoyez à deux reprises, comme vous le racontez dans "Et tu n'es pas revenu". Comment cela s'est-il passé ?
Alors J'étais déjà intégrée au camp. J'étais intégrée au camp, j'étais dans le Lager B, parce qu'on était en quarantaine au Lager A, et puis toutes les personnes qui tombaient partaient directement à la chambre à gaz. On a même assisté à une véritable sélection pour les chambres à gaz dans le camp, avec les cris des gens qui partaient, c'était l'horreur. Donc j'étais dans un commando de travail de force. On creusait des tranchées le long de la fabrication d'une route. Au retour, on travaillait 12 heures par jour, hein, du matin au soir. Et en rentrant, nos deux commandos se sont croisés et je l'ai vu. Non, je l'ai senti avant de le voir. J'ai toujours eu le sentiment de le sentir avant de le voir. On s'est jeté dans les bras l'un de l'autre. Et là, j'étais battue à mort, traitée de putain.
Et votre père disait, mais c'est ma fille,
Et le SS lui disait, tu vas en recevoir autant. Et puis, je me suis évanouie. Et il m'a mis une tomate et un oignon, comme je raconte dans ce livre, dans la main. Ouais. Et pour moi, c'était formidable de savoir qu'il était vivant. Donc, parce que j'avais très peur. Il avait une hernie à l'aine, il portait une ceinture spéciale. J'avais eu très peur qu'il était emporté dans la vague des gaz, vous voyez. Et puis, j'ai plus eu de nouvelles. Mais je savais qu'il était vivant. Donc, sa prophétie, elle n'était pas juste. Il était aussi vivant que moi. Beaucoup amaigri, bien sûr, dans un costume de bagnard. Moi, j'étais toujours vêtue de vêtements de clochard, véritablement de clochard. Heureusement que j'avais eu ce caleçon long dont j'avais honte, parce que je pouvais en déchirer un petit bout tous les jours pour aller aux toilettes. Et puis, un jour, dans le bloc où j'étais, est arrivé ce type qui hurlait « Rosenberg, Rosenberg, oh, Rosenberg !» Et j'ai dit « C'est moi ?» À ce moment-là, j'avais changé de travail, j'avais été mutée dans un commando privilégié qui s'appelait le Canada.
Ah oui, on l'appelait Canada parce que justement...
Nous, on l'aurait appelé le Pérou si le camp avait été en France, mais c'était le langage des Polonais. Le Canada devait symboliser la richesse, sans doute.
L'Eldorado.
Oui, l'Eldorado. Et il m'a apporté une lettre de mon père.
C'était la richesse parce qu'on y entassait tous les vêtements des déportés,
Leur bagage, ils avaient déjà été triés. Voilà. Plusieurs fois, mais j'avais trouvé cette pièce d'or dans les ourlets d'une robe de femme, pas riche. Et je n'avais même pas un crayon pour répondre, j'avais même pas un bout de papier, parce que à l'intérieur du camp, c'était la désolation, il n'y avait rien. C'est comme s'il n'existait rien à l'extérieur. Alors on perdait même l'idée qu'un crayon pouvait exister à l'extérieur. Et puis, je lui ai donné cette pièce en lui disant, je la cachais, je la gardais, mais sans savoir quoi même en faire, tellement j'avais peur qu'il m'arrive quelque chose avec cette pièce. Et je lui ai donné, je lui ai dit, tu partages avec mon père. En un très mauvais allemand, je lui ai expliqué. Für die et für my father. Af en af. Comme ça, quelque chose comme ça. J'ai jamais su s'il avait reçu ses pièces d'or ou pas.
Et vous avez eu sa lettre.
Et j'ai eu la lettre. Et la lettre, je n'ai jamais su, je ne me suis jamais souvenue de ce qu'il y avait.
Voilà, et ça, vous en voulez toujours. Hein,
oui, parce qu'elle avait quelque chose sans doute de testamentaire, puisque je revenais par rapport à ma famille.
Et comment vous expliquez à vous-même que vous en ayez oublié le contenu?
Et le contenu, et le papier.
Et le papier, oui.
Je ne sais pas. Oui. Il a dû m'arriver beaucoup d'autres choses oubliées, sans doute, entre-temps.
Oui, évidemment.
Tous les mois, on passait à l'étuve, vous voyez, on nous prenait tout. Est-ce qu'à ce moment-là, je l'ai caché et plus jamais retrouvé? Impossible de savoir, impossible. Et toute ma vie, j'étais obsédée par cette lettre. C'est-à-dire, dans tout ce que j'ai fait, moi, du film de Jean Rouch, Chronique d'un été, à mon film, 40 ans ou 50 ans ou 60 ans plus tard, il y avait toujours la présence de mon père.
Et votre père, vous savez comment il est mort? Non.
Non.
Ça, vous ne savez pas?
Non.
Vous savez pas du tout?
Pas plus que ce qu'il y a dans mon livre.
Pas plus que ce qu'il y a dans votre livre?
Non, non. Mais j'ai perdu entre-temps 50 personnes de ma famille. Tout le monde.
Tout le monde.
Ah ouais.
Et... quand vous rentrez d'Auschwitz, Vous êtes à l'hôtel Lutetia.
Oui.
Finalement, vous partez rejoindre votre mère.
Oui.
À Bollème.
Je l'ai d'abord au téléphone, je lui dis, quand j'entends, je lui demande si mon père est là, elle me dit non, j'ai dit je ne veux pas rentrer.
Oui.
Mais finalement, je suis obligée de rentrer. Et ça a été mon malheur de rentrer.
Pourquoi c'était votre malheur de rentrer?
Parce que je pense que si j'avais été plus âgée, je ne serais pas revenue. Je serais partie ailleurs.
Mais c'était votre
L'absence de mon père a été d'une terrible.
Terrible.
Et pas seulement pour moi, mais pour toute la famille d'ailleurs.
Et justement, mais en même temps, votre mère a cette inquiétude qui vous paraît encore aujourd'hui presque monstrueuse, puisque la seule question, enfin, la grande question
est-ce
qu'elle
que
vous
j'ai
pose,
été violée?
Est-ce que vous avez été violée? C'est ça qu'elle vous demande, c'est ça qui lui importe, comme si elle ne voulait pas prendre vraiment la mesure de ce que vous aviez vécu.
Non seulement cela, la mesure de ce qu'étaient les Allemands.
Voilà.
Parce qu'il était interdit aux Allemands de coucher avec une juive.
Oui.
J'avais eu cette expérience déjà chez moi, avant la déportation, avant d'être embarquée à Avignon, puisque vraiment, un mafieux de Marseille a essayé de me violer et que j'ai été sauvée par le chef de la Gestapo qui était là, et qui est arrivé en entendant mes cris, et qui dit « on ne couche pas avec cette sale race ».
Oui, mais est-ce qu'à votre mère, vous avez pu un peu expliquer, est-ce que vous avez pu justement témoigner
non.
devant elle de ce que vous aviez vécu?
Jamais vraiment, non.
Jamais vraiment?
Non, pour elle c'était « il faut oublier, il faut passer à autre chose », voilà.
Ah, oui.
Comme et la majorité des gens, hein. C'est comme ça qu'ils réagissent, stupidement.
La majorité des gens, dites-vous, oui, c'est ce que d'ailleurs disait souvent Simone Veil, on a parlé du silence des déportés, en fait nous voulions parler, et il n'y avait pas beaucoup d'oreilles pour nous entendre.
Non, il n'y avait pas beaucoup d'oreilles pour nous entendre, dans la profondeur, dans la compréhension de d'où on venait, de ce qui s'était passé.
Mmh.
On ne voulait pas savoir. Et puis tout d'un coup aussi, ceux qui étaient restés vivants vivaient dans une espèce de rage de vivre, peut-être la même qu'on peut trouver en Israël aujourd'hui, face à la mort.
Mais cette rage de vivre, d'une certaine manière, je l'ai vue, enfin, dans des limites de la convention bourgeoise chez mes parents, parce que ce sont deux rescapés, ils avaient tout perdu. Je me souviens, dans les années 50, ils sortaient tous les soirs, ou presque, trois ou quatre fois par semaine, et c'est la concierge qui me gardait. Alors, c'était avec leurs amis, ils faisaient pas de folie, mais enfin
non,
bon.
Non, bien sûr.
C'était des soupes à l'oignon, aux halles, très tard le soir, voilà, c'était des choses comme ça. Mais il y avait quand même, sinon une rage, du moins, un appétit de vivre, de rattraper malgré tout aussi le temps perdu.
Bien sûr.
Que vous aviez connu
vous-même.
Que
moi j'ai connu à ma façon aussi à Saint-Germain-des-Prés.
Voilà, vous étiez très Saint-Germain-des-Prés.
Oui.
Vous racontez ça, mais vous dites aussi que votre famille a été littéralement dévastée, détruite, pulvérisée par la mort de votre père.
Oui.
Et vous parlez en termes extraordinairement émouvants du destin d'une sœur et d'un frère qui se sont suicidés, et notamment de votre frère Michel. Est-ce que vous pouvez en dire quelques mots?
Mon petit frère était très très proche de mon père. Il le suivait partout, il était absolument collé à mon père. Il a été plusieurs fois un enfant caché. Il en souffrait beaucoup. Et je pense que la mort, le fait que mon père ne soit pas revenu, ça a été déterminant pour lui. Il n'a jamais pu se reconstituer ou se constituer même, parce qu'il avait 5-6 ans à la fin de la guerre, c'est tout. Hein. C'était un enfant. Et puis, j'étais trop petite aussi pour pouvoir le comprendre. Je revenais, j'étais moi-même détruite. Ma mère s'est remariée très vite en cachette. Donc tous ces éléments n'ont fait qu'aggraver
son cas. Il est tombé dans une espèce de provocation, non ?
Oui, il était hypomaniaque, c'est-à-dire il était maniaco-dépressif. Et alors il se prenait pour un SS.
Voilà, c'est ça.
Il se vengeait en étant devenu un bourreau. Il a même fait une croix gammée sur ma boîte aux lettres à la maison. Il m'a envoyé en transport avec Simone au Brésil ou je sais où. Il était dans des crises d'excitation abominables.
Et vous pouviez parler avec lui dans ces moments-là où c'était pas possible?
Non, quand il était dans l'état d'excitation, c'était impossible. Mais après, il tombait dans des états de mutisme total. Et les rares moments où il pouvait être bien, il n'entendait rien, non. Il ne voulait rien entendre.
Et sur la lettre qu'il a écrite pour son suicide, il a dit « Je vous demande pardon d'être né ».
C'est quelle horreur.
C'est quand même une phrase absolument. Il avait quel âge quand il s'est suicidé?
Il avait 40 ans.
40 ans. 40 ans. Et votre sœur aussi?
Et ma sœur s'est suicidée après lui.
Après lui.
C'est-à-dire, lui, il s'est suicidé, ma mère est morte et ma sœur s'est suicidée. Elle n'a pas pu avoir le sauvé. Elle était ma sœur aînée.
Elle s'en voulait de ne pas avoir pu sauver son frère Michel.
Oui. Oui.
Alors là, je voudrais poser une question qui concerne davantage votre trajectoire après la guerre, les choix politiques qui ont été les vôtres. Alors je vais vous lire d'abord un texte de Jacqueline Ménil-Amard, de L'enfant perdu à la fin prophète.
Qui date de quand ?
1950, et c'est pour ça qu'il est très intéressant. Si étrange que cela paraisse, il semble que ce que le judaïsme officiel n'a pas fait pour ranimer l'argile tendre des jeunes âmes à la foi de leur père, que toutes les paroles qu'il n'a pas prononcées, que les gestes qu'il n'a pas accomplis, ce sont les événements historiques de ces dernières années qui s'en sont chargés. Après 13 années d'hitlérisme, après 4 ans d'occupation nazie en France, après les camps, les wagons et les fours, il n'est plus un seul juif, croyant ou incroyant, perdu ou retrouvé, qui ne se souvienne qu'il est juif. La routine ou la négligence des uns, la honteuse ignorance des autres, l'intransigeance des premiers, le reniement des seconds, tout a fondu au destin d'Israël. Israël, c'est le peuple juif en l'occurrence, enfin, je le dis pour certains auditeurs qui pourraient ne pas comprendre ou faire semblant de ne pas comprendre. Une fois de plus, ce destin s'est levé comme le tonnerre, a ravagé un ciel serein et fondu comme la foudre sur tous les enfants d'Israël sans distinction, brûlant au même feu les assimilés, les derniers venus, les justes et les injustes, les innocents et les coupables, les enfants perdus et les enfants prophètes. Tout a fondu au destin d'Israël. Le juif s'est retrouvé juif. Lévinas, il a dit, il a pris conscience de l'irrémissibilité de son être. Or, chez vous, il semblerait que cette prise de conscience ait été plus tardive. Vous êtes jeté à corps perdu dans l'universalisme révolutionnaire, une manière de sauver l'humanité, justement, par l'émancipation à l'égard de toutes les appartenances. Et vous dites, dans un de vos livres, que c'est le dernier, je crois, et tu n'es pas revenu, que c'est le 11 septembre, que tout a basculé, oui, que vous êtes rendu compte, justement, que de l'irrémissibilité de votre être, pour reprendre l'expression de Lévinas. Comment se fait-il, justement, qu'il y ait eu ce décalage entre vous et Jacqueline Ménil-Amard?
Parce que j'ai fréquenté des milieux intellectuels sans en avoir suffisamment de connaissances après la guerre et après Saint-Germain-des-Prés, si vous voulez. Et je me disais, on peut pas rester dans ce monde à ne rien faire. Or, il n'existait que le Parti communiste. Il n'existait strictement rien d'autre. Et je suis rentrée. D'abord, je me suis inscrite pour partir faire la guerre en Israël par désespoir. Par désespoir.
Ah oui.
Oui, en 47-48, avant la reconnaissance de l'indépendance d'Israël.
Oui.
Et là, j'ai pas du tout été acceptée parce que j'étais mineure et ma mère ne voulait pas non plus que je parte. Et de plus, ils n'acceptaient pas les mineurs. Donc, vous savez qu'on était mineurs jusqu'à 21 ans à l'époque. Donc, suite à des discussions de bistrot, de Saint-Germain-des-Prés, voilà, je me suis dit, il faut quand même faire quelque chose. On peut pas. Mais il reste que le Parti communiste. Oui, on sait que ceci et que cela. Mais peut-être qu'en France, ça peut être différent. Et je suis rentrée au Parti communiste pendant quelques mois. Et rapidement, j'ai bien compris que c'était pas possible pour moi et que c'était un lieu de mensonges et de non-dits. Et donc, j'en suis sortie. Mais en même temps, j'ai été sous influence de la notion d'universalité venue de l'ère des Lumières. Alors, je me suis dit, oui, mais quand même, il faut continuer à essayer de faire quelque chose. Donc, je me suis intéressée à ces mouvements d'opposition au Parti communiste et de ceci en cela jusqu'au maoïsme. Je me suis dit que bon, il fallait.
Oui, vous avez cru quand
même. Peut-être qu'il y avait
même
des possibilités de changer le monde d'une autre manière, voilà.
Et le maoïsme a beaucoup compté pour vous, avec
avec
notamment
Yavis,
à la période de Joseph Stevens.
C'était pas qu'il est tellement con. Bien sûr qu'il a compté parce que peut-être il y avait une possibilité de changer le monde. On a été très subjectifs. On a cru que la haine qu'on portait à l'Union soviétique, elle était identique à celle que des Chinois. Et c'est là où il y a eu confusion et beaucoup de fautes, de bêtises de dites. Mais en même temps, j'étais très rapidement en crise après avoir fait 15 films en Chine, ce qui était énorme, et qui essayait de montrer une autre Chine qui n'était pas fausse non plus, parce qu'on ne peut pas dire que tout était faux dans nos films, ce n'est pas vrai. C'était une tentative. Et puis le fait qu'un chef d'État appelle à la révolte, alors ça c'était inouï.
Ça c'est la révolution culturelle.
Ah bah ça c'est la révolution culturelle.
Et à la suite, on a raison de se révolter.
Ben, bien sûr, voilà.
Il y en a d'autres feu sur le quartier général.
Il y en a d'autres qui pensent pareil en ce moment.
C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire, Marceline?
Je pense qu'il y a des mouvements en ce moment qui pensent pareil, quoi. Pensent qu'il faut tout foutre en l'air.
Ah oui, oui, oui. Oui, non, mais ça existe. Mais alors, justement, mais alors.
Et ce qui a été déterminant, c'est que j'ai eu une. Yoris est mort. J'ai commencé à travailler sur le projet de film sur Auschwitz.
Il est mort en quelle année, Yoris Evans?
En 89. Oui. Et donc, depuis longtemps, je voulais faire, depuis 60 ans, je voulais faire un film sur Auschwitz.
Et est-ce qu'il était au courant de ce projet?
Ah oui, oui, bien
et
sûr.
Il voulait le faire avec
vous?
Il était pour.
Ah oui, tout à fait, oui. Mais enfin, évidemment, il prenait une place tellement importante que c'était un film aussi sur lui. En même temps, parce que l'idée, c'était la petite juive apatride et l'homme, le Hollandais volant, condamné à errer sur les mers...
Ah oui, c'est ça.
Pour n'avoir pas reconnu Dieu. C'était ça le sujet, l'idée.
Et en même temps, je crois, dans un de vos livres, vous racontez une rencontre avec Ho Chi Minh.
Oui.
Hein, et ça, c'est une rencontre très intéressante parce qu'il vous demande...
Il voit mon numéro.
Oui, il voit le numéro tatoué.
C'est en 1967.
Oui.
Il voit mon numéro. On est en train de discuter pour aller au 17e parallèle, l'endroit le plus dangereux, attaqué par trois côtés, la terre, la mer et le ciel. Et là... Il passe par hasard, un tout petit bonhomme, comme ça, et il voit, il fait chaud, et il voit mon numéro de matricule, il s'approche, il me regarde, il dit « T'as pas été cramé là-bas? T'as été à Auschwitz? C'était là-bas? Oui. Ils t'ont pas cramé là-bas? Non. » Et juste au moment où Van Vandung, le Premier ministre, refusait que j'aille au 17e parallèle, parce que je n'étais qu'une Parisienne, bien entendu, il dit, chez moi, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu iras au 17e parallèle.
Oui, c'est tout à fait incroyable.
Ah oui, oui, c'est comme ça que je suis allée faire ce film sur la guerre du Vietnam, oui.
Oui.
Et pourquoi? Ensuite, évidemment, les premières attaques antisémites ont commencé vers l'an 2000,
oui,
à peu près. J'ai été extrêmement choquée par ça. J'étais en pleine crise politique, évidemment. Et tout d'un coup, il y a eu le 11 septembre. Alors le 11 septembre, ça y est, j'ai tout compris, quoi.
C'est là, voilà.
Ah
c'est
oui,
là que tout
d'un coup...
C'était déterminant. Et vous avez compris quoi, justement? Qu'est-ce que vous avez compris en ce temps,
Marceline Norin? D'abord, j'ai compris que j'étais sous influence. J'ai compris que j'avais été sous influence par les intellectuels français. Comme j'étais... Voilà. Ensuite, j'ai compris que les choses... l'évolution du monde n'allait pas du tout dans le sens qu'on pouvait croire... Et que je commençais à comprendre mieux Israël après ce qui s'était passé, étant donné l'attaque par les musulmans des deux tours. Donc j'ai commencé à regarder le monde d'une autre manière, à remonter dans l'histoire du monde d'une autre façon, et à commencer à autonomiser ma propre pensée.
Mais les gens vous répondront quand même, c'était pas une attaque par les musulmans, c'était une attaque par des islamistes se réclament du djihad.
D'accord. Je mettrais musulmans entre guillemets, mais par les islamistes. Mais les islamistes, il y en a beaucoup. Et puis, c'est une vieille histoire. C'est pas une histoire récente, les islamistes. Il y en avait, mais le grand mufti de Jérusalem, il a quelque chose à voir avec Leïla Chahid aujourd'hui, et peut-être avec Arafat. Alors, les Arabes, à l'époque, étaient pro-hitlériens.
Oui,
tous,
oui.
Pendant la guerre.
Oui.
Ou mais pratiquement.
Justement, en même temps... est-ce que ça vous conduit à penser que l'antisémitisme est éternel, ou bien que en France, une forme d'antisémitisme frappe qui, au fond, n'a rien à voir avec celui que vous avez pu ressentir dans les années 30, au début de l'occupation, etc., parce qu'il ne surgit pas du terroir français. Il vient d'ailleurs, c'est l'antisémitisme de ce moufti mondial qu'est aujourd'hui Youssouf Al-Qaradawi, prédicateur vedette d'Al Jazeera, et qui pouvait dire le 28 janvier 2009, tout au long de l'histoire, Dieu a imposé aux Juifs des hommes capables de les châtier pour leur corruption. Le dernier de ces châtiments a été administré par Hitler. Les méthodes qu'il a utilisées contre les Juifs étaient peut-être exagérées, mais il s'est débrouillé pour les remettre à leur place. Et c'est un châtiment divin qui s'est abattu sur eux. Si Dieu le veut, la prochaine fois, ce sera de la main des musulmans. Voilà. Mais ce n'est pas... c'est une autre forme d'antisémitisme.
Oui, mais les deux s'associent. Vous savez, il y a toujours des relents antisémites dans l'extrême droite française ou sur un certain nombre de gens ignorants associés à ce qu'on appelle, entre guillemets, que moi j'appelle pas du tout un nouvel antisémitisme. C'est le même. Les racines sont peut-être pas exactement les mêmes, mais le but, c'est la destruction d'Israël et la destruction de tous les Juifs. Si Rommel avait pas perdu la bataille d'Allemagne, il y aurait plus de Juifs depuis longtemps à Jérusalem, vous comprenez? Oui, il faut jamais l'oublier, ça. Donc c'est une vieille histoire qui remonte beaucoup plus haut qu'on ne le dit. Même des fois, quand je pense à la vision de ce film... Comment il s'appelle ce film?
Laurence Arabie.
C'est une vieille histoire. On l'a laissé passer sans se rendre compte de ce qu'on voyait.
Oui. Mais alors, aussi, Marceline de Riedenvens, vous avez dit dans une émission qui a fait beaucoup de bruit, c'était sur France Inter, invité par Patrick Cohen, vous avez parlé de votre expérience dans les écoles. Vous allez dans les écoles comme d'autres rescapés, et c'est une expérience qui peut être assez pénible. Est-ce que vous pouvez en dire plus?
Oui, parce qu'il m'est arrivé d'aller dans des endroits difficiles, où, à la projection de mon film, j'entendais des claquements de doigts, comme ça. Vous voyez? Moi, je sais pas le faire, ça. Oui, voilà, bravo. C'est ça. Et c'était une forme de protestation. Et je me souviens qu'après la projection, je me suis adressée à tous les enfants qui étaient là. Ils devaient avoir 13 ans, 12, 13 ans, 14 ans, voilà. Et j'ai entendu des claquements de doigts. Est-ce que c'est une protestation? J'aimerais bien pouvoir en parler avec vous. J'aimerais bien qui a claqué des doigts pour que nous en parlions ensemble. Mais évidemment, personne ne sait.
C'était dans quel établissement?
Je
ne
me souviens
établissement
pas. C'était dans la banlieue parisienne.
C'était dans la banlieue parisienne.
J'ai pas retenu oui. Le lieu.
Vous n'avez pas retenu
regrette,
le lieu.
Je regrette. Oui.
Et vous continuez à faire ce genre de...
Récemment, j'étais à Henri IV. J'avais 250 élèves. Oui. Ça m'arrive. Mais je le fais.
Quel est votre but? Quel est le sens pour vous de ce témoignage?
Parce que je me dis toujours que même parmi 250, il y en aura peut-être deux ou trois qui retiendront quelque chose, oui, et qui essayeront de s'informer davantage ou d'aller à Auschwitz pour voir véritablement la réalité. Et j'ai lu il y a quelques jours dans un journal, c'est un écrivain musulman qui est allé à Auschwitz pour comprendre. Et quand il a posé, c'est lui qui a posé la question au directeur du musée. Est-ce qu'il y a beaucoup de musulmans qui viennent ici, des pays arabes qui viennent? Il dit personne. Mmh. Tous les pays du monde viennent, sauf les pays musulmans.
Oui.
Même du Maghreb.
Alors, si je me faisais leur avocat, je dirais ils ne viennent pas parce qu'il est vrai qu'il y a le musée Yad Vashem en Israël et que Israël instrumentalise cet événement pour justifier une politique qu'ils peuvent juger injuste, néfaste ou oppressive. Et si tel n'était pas le cas, peut-être viendrait-ils plus ouvertement, plus spontanément.
Je trouve bizarre votre façon de réagir.
Mais c'est pas ma façon. Je fais l'avocat d'une thèse qui n'est pas la mienne.
Ah oui,
mienne. Ah oui, non, mais je l'entends beaucoup.
C'est ce qu'on entend dire aujourd'hui.
Oui, voilà.
Oui, mais les gens sont mentent tellement de mauvaise foi, ils mentent tellement, ils se mentent à eux-mêmes et ils nous mentent sans arrêt. Comment peut-on faire? Parce que personnellement, je n'interviens pas dans la politique d'Israël parce que je n'y vis pas, mais je suis contre toute délégitimation de l'État d'Israël. Oui. Et tant que je ne vis pas dans d'autres pays, je ne m'intéresse pas à leur politique. Oui. Sinon globalement, quoi.
Et une dernière question. Quand vous étiez justement pris par cette espèce d'enthousiasme, d'optimisme révolutionnaire, on disait plutôt du mal d'Israël parmi vos camarades. Est-ce que vous en souffriez à l'époque?
Mais moi je disais pas du mal d'Israël. Je me suis toujours reconnue comme juive.
Ah oui, oui. Donc,
mais je même pensais dans que dans l'universalité généralisée, le problème d'Israël serait réglé. Mais quelle bêtise.
Mais quelle bêtise. Bien, mais écoutez, merci beaucoup Marceline Noridan-Ivens. Alors, je voudrais rappeler...
Moi j'aurais bien voulu vous poser une question.
Ah, alors allez-y.
Je voulais vous demander, j'ai toujours suivi tout ce que vous faites depuis de nombreuses années, et j'ai pas bien compris pourquoi tout d'un coup vous êtes intéressé à J-Call, parce que vous ne vivez pas non plus là-bas. Comment pouvez-vous juger tout le temps d'une politique dans un pays dont vous ne savez pas grand-chose?
Oui, alors J-Call, je dis très vite pour les auditeurs, c'est en effet une petite association qui plaide pour la solution de deux États. Et je le fais depuis 40 ans parce que je pense, Marceline Noridan-Ivens, que Israël est menacé, évidemment, mais il y a aussi une menace interne qui serait, si le statu quo est préservé, eh bien, la constitution d'un État binational. Là, le sionisme n'y survivrait pas. Voilà la raison de ce choix politique qui est le mien, mais ça ouvrirait sur une toute autre discussion.
D'accord.
Je vous remercie de cette question.
Pareil,
en tout cas.
Même moi, je pense comme vous.
Bon, bah très bien. Écoutez, merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre dernier livre, écrit en collaboration avec Judith Pérignon, « Et tu n'es pas revenu » chez Grasset. Vous trouverez les références bibliographiques sur le site répliquefranceculture.fr où l'émission est téléchargeable un an et réécoutable 1000 jours. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut avec la collaboration d'Anne-Catherine Lechard, Alexandra Malka et Didier Lagarde. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.